RTN Info.
Le journal Claire Viget.
Bonsoir, Axamax affrontera Rapperswil pour se maintenir en Challenge League. Le club saint-gallois a battu Bavois cet après-midi, remporte le ticket de barragiste devant Étoile Carouge. Neuchâtel Axamax dispute tout de même le dernier match de la saison face à Vaduz à la Maladière. Le coup d'envoi vient d'être donné. Sentant que le musée d'histoire de la Chaux-de-Fonds a pris ses quartiers à la Villa Sandeau, lorsqu'elle a acheté la bâtisse en 1921, la ville avait déjà dans l'idée d'y ériger un autre musée. Union Neuchâtel pour faire à nouveau mentir les pronostics. Les basketteurs du littoral affrontent Massagno, vainqueur de la saison régulière de Swiss Basketball League, en demi-finale des playoffs ce soir à la Riveraine. À un partout dans la série, tout peut basculer lors de cette rencontre. Et puis soleil et douceur au programme météo de demain. La bise viendra agréablement ventiler l'atmosphère. Le mercure atteindra 20 à 24 degrés. Xamax qui est enfin fixé sur son sort. Les Rouges et Noirs vont affronter Rapperswil en barrage de promotion-relégation Challenge League, Promotion League. La décision est tombée cet après-midi après quand même un peu de suspense, Yann Esler.
Oui, un peu de suspense, Claire, car il fallait une victoire pour Rapperswil pour être assuré de participer à ce barrage. Et les Saint-Gallois avaient mal commencé car ils étaient menés 1-0 par Bavois. Finalement, la logique a été respectée. Rapperswil a remporté ce match 3-1. Et à la faveur de ce succès, donc, le club termine devant Étoile Carouge, seul club qui pouvait briguer aussi la place de barragiste. Étoile Carouge a été 2 points derrière Rapperswil. Ils ont gagné leur match 6-0 face à Lucerne 2 qui était champion. Malheureusement, ce n'est pas assez. C'est Rapperswil donc qui affrontera Xamax. Xamax donc, on en parle. Ils affrontent Vaduz en ce moment dans un match pour beurre à la Maladière. Et on va retrouver tout de suite Nicolas Bandelier qui suit cette rencontre pour nous. Alors Nicolas, vous l'avez appris, c'est donc Rapperswil pour Xamax. Est-ce que vous avez déjà peut-être votre avis sur cette rencontre?
Oui, j'ai un petit avis concernant cette rencontre, Yann, bien sûr. Rapperswil, c'est une équipe solide, homogène, c'est une équipe suisse-allemande, ça je ne vous apprends rien, une équipe saint-galloise, et ça sera véritablement une bataille pour Neuchâtel-Xamax, ça c'est sûr, comme toutes les équipes en Suisse-Alémanique, eh bien, alors que le coup d'envoi est donné à l'instant même, ici à la Maladière, on a pris un tout petit peu de retard, eh bien, ça ne sera pas une partie de plaisir, ça c'est sûr, pour les Xamaxiens, match aller, on le rappelle, mercredi 31 mai, donc dans 4 jours, du côté des bords du lac de Zurich, dans le canton de Saint-Gall, contre cette équipe de Rapperswil à 19h30. Et puis le match retour dans une semaine et une heure, à 19h, ici, à la Maladière. C'est là que le sort de Xamax va se décider. Il faudra déjà bien négocier le match aller, parce que cette équipe, elle a été visionnée par Uli Forte. Et Uli Forte, eh bien, il a eu une bonne impression de cette équipe. Alors, il n'a pas dévoilé tous les secrets, bien évidemment, mais il nous a quand même dit que cette équipe était vraiment très homogène et très accrocheuse, alors que pour cette rencontre, eh bien, Uli Forte précisément, il aligne un Xamax très expérimental. C'est même presque jouer un petit peu avec le feu, on a l'impression, parce qu'il y a peu de joueurs qui vont jouer dans quelques jours contre Rapperswil. Il y a peut-être Guy Varche qui est titulaire, Atekame et Berisha, puis les autres, je ne pense pas qu'ils vont jouer. Il y a en tout cas 2 néophytes dans cette équipe xamaxienne, Exon Rexai qui a 20 ans, tout comme Axel Arm, lui aussi 20 ans habituellement, qui joue avec les moins de 21 ans, inconnu au bataillon dans la première équipe. Ils font leur baptême du feu aujourd'hui sous les couleurs rouge et noir, et Xamax donc qui aligne un 11 totalement inédit, totalement néophyte ce soir pour essayer de contrer le FC Vaduz, la seule équipe qui n'a pas battu Neuchâtel Xamax cette saison. D'ailleurs, la dernière victoire des Xamaxiens, bien, elle remonte au 26 février au Rhein Park de Vaduz, et Xamax s'était imposé 2-1 là-bas. On espère que les Xamaxiens vont rester invaincus contre cette formation. Ils se donnaient un petit peu de morale contre cette équipe de Vaduz. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de ne pas avoir de blessés supplémentaires et puis gagner un petit peu de morale, de la confiance pour mercredi prochain.
Merci Nicolas pour toutes ces précisions. On le rappelle, on suivra cette rencontre tout à l'heure après le journal, et on fera un petit détour aussi par le sport dans la page sport tout à l'heure.
Sentant que les collections historiques de la Chaux-de-Fonds étaient installées à la Villa Sandeau, avant cela, les objets et autres documents étaient conservés au collège industriel, devenu depuis le collège Numadro. Le musée d'histoire a ouvert ses portes au public, c'était le 28 mars 1923. La ville avait acheté le bâtiment et son parc 2 ans plus tôt. Francesco Garuffo, conservateur du musée d'histoire.
Quand la ville achète la Villa Sandeau en 1921, elle a pour objectif d'installer un musée. Il y a des discussions sur quel musée doit être installé dans la villa. Et puis, il y a tout de suite le projet, donc le parc est acheté avec la maison. Et il y a le projet de construire quelque chose, de construire un bâtiment pour un musée, ce qui sera le musée des Beaux-Arts, qui sera construit en 1926.
Et puis s'ajoute par la suite, dans les années 70, le musée international d'horlogerie.
Voilà, qui va bientôt fêter ses 50 ans aussi. Donc dans les années 60, il y a toujours ce projet de musée d'horlogerie. Et différentes options sont étudiées, mais assez vite s'impose l'idée d'enrichir en fait ce parc des musées d'un troisième musée, le musée international d'horlogerie, avec un projet très innovant pour l'époque, donc entièrement souterrain, et c'est le musée qui aujourd'hui se trouve sous nos pieds.
Les 100 ans du musée d'histoire seront célébrés au travers d'une exposition cet automne. Elle retracera l'histoire des collections et montrera comment l'institution a évolué. L'occasion pour la population de découvrir une partie des richesses que le musée conserve, plusieurs dizaines de milliers d'objets et notamment une lettre d'Émile Zola. Le conservateur n'en dira pas plus pour le moment. Chaque année, 46 personnes en moyenne se noient en Suisse. Dans la plupart des cas, c'est en eau libre. À l'heure où la belle saison fait son retour, le Bureau de prévention des accidents donne quelques conseils pour barboter en toute sécurité. Loïc Georgi.
Il tient tout d'abord à rappeler que les aides à la flottaison ont un fort potentiel de prévention. Or, selon le relevé du BPA, seule une personne sur deux actuellement utilise un tel dispositif. Se munir d'un flotteur de natation devrait devenir aussi évident que de porter un casque de ski, déclare l'un des experts en sport aquatique du BPA, Christophe Muller. Parmi les personnes qui ont recours, 43% utilisent les sacs et flotteurs de natation, alors que 14% usent d'autres aides comme des frites de piscine ou des ballons. Le Bureau de protection des accidents pousse un peu plus loin, il faudrait s'équiper d'un flotteur de natation doté d'un mécanisme de séparation afin de se libérer rapidement si la bouée reste accrochée quelque part.
Le BPA rappelle également les conseils de base, respecter les maximes de la baignade et de comportement en rivière, ne sortez jamais en solitaire, renoncez à la consommation d'alcool ou de drogue et ne nagez pas sans surveillance si vous n'êtes pas en forme. Les bouchons devant le Gothard diminuent lentement. Les automobilistes en direction du sud ont dû s'armer de patience aujourd'hui devant le portail nord de l'ouvrage. Jusqu'à midi, le bouchon atteignait 20 km. C'est ce qu'a indiqué le Touring Club Suisse sur Twitter. L'embouteillage s'est résorbé que lentement. Après 16 heures, il était encore long de 17 km. Environ 500 personnes, 1500 selon les organisateurs, ont manifesté aujourd'hui à Berne à l'appel de la grève du climat. Elles ont appelé à accepter la loi sur le climat soumise en votation le 18 juin prochain. Le texte prévoit d'atteindre la neutralité climatique en Suisse d'ici à 2050, notamment en encourageant le remplacement des chauffages à mazout, au gaz ou à l'électricité. L'utilisation d'énergie fossile ne sera pas interdite, mais réduite autant que possible. Les émissions restantes devront être compensées. Et puis à l'étranger, Téhéran a accusé aujourd'hui Volodymyr Zelensky de critiquer l'Iran dans le but d'obtenir plus d'aide et d'armes de la part des Occidentaux dans le conflit contre la Russie. La diplomatie iranienne réagissait à une vidéo diffusée mercredi dans laquelle le président ukrainien appelle le peuple iranien à faire pression sur son gouvernement pour qu'il s'éloigne de la terreur russe et cesse de livrer des drones pour mener des attaques de grande ampleur en Ukraine.
RTN, il est 18h09.
Sport. Et on vous retrouve, Yann Esler.
Oui, de retour, mais cette fois-ci pas avec du football, mais avec du basketball. Et une question, est-ce que Union Neuchâtel peut encore réussir un exploit ? Ce soir, à la Riveraine, les hommes de Mitar Trivunovic disputent le match 3 des demi-finales des play-offs de Swiss Basketball League face à Massagno. C'est actuellement un partout dans la série. La rencontre a commencé il y a à peu près 9 minutes. Et on retrouve tout de suite Guillaume Joly qui suit cette rencontre pour nous. Alors Guillaume, qu'est-ce que fait Union ?
Oui, c'est toujours très serré dans cette partie, Yann, ici à la Riveraine. Union Neuchâtel qui est menée d'un petit point, 10 à 9 en faveur de Massagno après quelques 5 minutes de jeu ici à la Riveraine. Mais on a eu très peur pour les unionistes qui ont encaissé un sec 8 à 0 dans les deux premières minutes de jeu ici. On a eu peur, le coach Mitar Trivunovic qui a directement pris un temps mort histoire de remobiliser ses troupes. Et ça semble-t-il fonctionner puisque les unionistes, grâce à deux tirs à 3 points de Esteban De La Fuente et de Dallan Ancrum ont réussi à revenir donc 10 à 9 pour Massagno face face à Union Neuchâtel. Mais Union qui est vraiment dans son match désormais, et un match important hein, puisque cette série de demi-finale des playoffs se joue au meilleur des 5 matchs. Il y a actuellement un partout. Le vainqueur ce soir eh bien, mènera 2-1 dans cette série et aura l'occasion de conclure l'affaire dès mardi. C'est donc une véritable rencontre charnière dans cette série à laquelle on assiste ce soir. En tout cas, après 5 minutes de disputée ici à la Riveraine, c'est toujours 10 pour Massagne, 9 pour Union Neuchâtel.
Merci Guillaume pour ces précisions. On vous retrouve tout à l'heure pour suivre cette rencontre en direct sur RTN. On repasse du côté de la CAS Football. On jouait en Première Ligue aujourd'hui et peut-être un tout petit peu de regret à avoir pour le FC La Chaux-de-Fonds qui a battu Nathers 2-0 pour le dernier match de la saison. Les Chaux-de-Fonniers terminent 5e du classement à seulement 5 points de la barre de la promotion, je veux dire. De son côté, Cofrane est allé perdre à Terre-Sainte 4-3. Dans le groupe 2, les moins de 21 de Neuchâtel-Xamax ont partagé l'enjeu avec Emmen Brücke. Et en Allemagne, le Bayern Munich a décroché in extremis le 33e titre de champion de son histoire, le 11e consécutif. Les Bavarois ont profité du faux pas du Borussia Dortmund. Le BVB, leader avant cette 34e et dernière journée avec 2 points d'avance, a concédé le nul 2-2 contre Mayence. Le Bayern qui a gagné 2-1 à Cologne devance son rival à la différence de but. En Formule 1, Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix de Monaco. Le Néerlandais a devancé le vétéran espagnol Fernando Alonso sur Aston Martin Mercedes. La deuxième ligne de départ sera composée par la Ferrari de Charles Leclerc et Esteban Ocon. Ces qualifications ont par contre tourné à la catastrophe pour Sergio Pérez et sa Red Bull. Vainqueur l'an dernier en principauté, le Mexicain s'élancera de la 20e et dernière place demain à 15h. En tennis, Nicolas Jarry a remporté l'édition 2023 du Geneva Open. Le Chilien s'est imposé 7-6-6-1 face à Grigor Dimitrov en finale sur la terre battue du Parc des Eaux Vives. Il grimpera ainsi aux alentours de la 35e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière ce lundi. On termine avec du hockey sur glace. Le Canada disputera sa 4e finale consécutive dans un championnat du monde demain à Tampere. Les joueurs à la feuille d'érable ont difficilement battu la Lettonie 4-2 dans la première demi-finale. Les Canadiens se fronteront soit aux États-Unis, soit à l'Allemagne.